RFI, bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est tout juste 12h30 temps universel et à Nouakchott, 14h30 ici à Paris. Toute l'actualité africaine, Afrique Midi avec vous, Nicolas Brousse.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Nous serons en direct de la Mauritanie qui vote aujourd'hui pour la présidentielle. 7 candidats se présentent, dont le chef de l'État sortant et ses deux principaux opposants. Notre envoyé spécial nous attend à Nouakchott. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 revendiquent la prise de contrôle de la ville de Kanyabayonga, une grande cité de plus de 60 000 habitants qui accueille en outre des dizaines de milliers de déplacés dans le Nord Kivu. Dans ce journal également, des nouvelles de la dizaine de dirigeants politiques maliens arrêtés il y a 9 jours, des réactions aux accusations inédites de viol dans un centre de formation de la Fédération Guinéenne de Football. Et puis le festival Gnawa Musique du Monde fête ses 25 ans à Essaouira, capitale musicale africaine, le temps d'un week-end. Nous entrerons dans la transe Gnawa avec un jeune Malem. Afrique Midi, une demi-heure d'actualité africaine. Bienvenue, on tourne ensemble la première page. Il est 12h31 à Nouakchott, où comme dans toute la Mauritanie, on vote donc aujourd'hui pour la présidentielle. 4504 bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin auprès de 2 millions d'électeurs appelés à choisir le prochain président parmi 7 candidats, dont le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Razouani, qui brigue un second mandat. Ses deux principaux concurrents sont le militant des droits de l'homme, Miram Da Abeid, deuxième des deux dernières présidentielles, et le président du parti islamiste Tewassoul, Amadi Oul Sidi El Mokhtar, première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Léa Lisa Vesteroff, vous êtes l'envoyée spéciale d'RFI à Nouakchott, précisément dans le quartier populaire d'El Mina, dans l'ouest de la capitale. Comment se déroule ce vote à la mi-journée ?
Eh bien, ici au lycée El Mina 2, où je me trouve, dans le nord-ouest de la capitale, les opérations sont extrêmement lente. Un peu plus d'une centaine de personnes attendent de pouvoir voter, des hommes essentiellement en file indienne.
Léa Lisa Vesteroff, est-ce que vous nous entendez ? On est en train de
ralentir car il n'y a qu'un électeur qui passe à la fois. Situation totalement différente.
On est en train de perdre notre envoyé spécial. On va essayer
électeur.
De... Léa Lisa, on va essayer de vous rappeler parce que la ligne est en train de nous lâcher. On va tout de suite écouter votre micro-trottoir que vous avez pu réaliser ce matin dans un autre quartier périphérique et populaire de Nouakchott. Vous étiez tout à l'heure à Sekba.
Bien sûr, c'est un devoir citoyen, c'est très important. On a l'espoir.
Tout se passe bien pour le moment ?
Tout va se passer bien, Inch'Allah.
C'est un moment crucial. Parce qu'on doit élire un président. Un président, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même quelque chose de très important que tout le monde doit faire son devoir civique.
J'ai Aïda Nuzru, Andemiré, Goulé.
Elle est venue pour voter ?
Oui, mais Andiba, Mauritanie, 100%.
C'est une citoyenne mauritanienne, donc elle est venue faire son devoir citoyen.
Bon, nous sommes venus ici très tôt, parce qu'aujourd'hui, il va faire très chaud à 40 degrés. Donc, pour le moment, tout ça se passe très bien. J'espère qu'à la fin, les PV seront affichés et tout va être normal. Oui, c'est-à-dire que parfois, celui qui était dans le bureau, ce qui est affiché et ce qu'il avait trouvé, ce n'est pas la même chose. Donc si le PV est affiché, on peut prendre les photos, ce sera très clair.
Bien sûr, il faut être très vigilant pour surveiller le bon déroulement des votes. On va revenir, bien sûr, nous sommes des citoyens, donc c'est notre droit aussi de revenir pour voir comment ça se passe et tout ça. Si c'est bien affiché, les PV et tout. J'espère que tout va bien se passer.
Donc des propos recueillis par notre envoyé spécial à Nouakchott, Léa Lisa Vesteroff, que nous venons de retrouver. Léa Lisa, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends, Nicolas.
Parfait, je vais donc vous reposer la question. Comment se déroule le vote aujourd'hui ?
Eh bien, dans le bureau, le lycée El Mina 2, où je me trouve, les opérations sont très lentes. Vous le disiez, un peu plus d'une centaine de personnes attendent de pouvoir voter, des hommes essentiellement en file indienne. 1500 personnes environ sont inscrites ici et les opérations sont ralenties car il n'y a qu'un électeur qui passe à la fois. Situation totalement différente. Dans le lycée d'à côté, la cour est quasi vide avec très peu d'électeurs. Un peu moins de la moitié des quelques 2000 inscrits dans ce lycée a déjà voté depuis ce matin. Aucun chiffre de la participation n'a encore été rendu public, Nicolas, à ce stade. Il est donc difficile d'avoir une image globale. Dans ce bureau de vote, en tout cas, 5 candidats sur les 7 sont représentés. Pas d'observateurs nationaux ici, mais je viens de voir 2 experts de l'Union européenne passer pour vérifier le bon déroulement du scrutin, des électeurs qui, pour leur patience, convaincus qu'il est important de voter.
Aucun chiffre pour l'instant, Léa Lisa. On sait en tout cas que la commission électorale mauritanienne est très attendue sur la transparence du scrutin.
Oui, la présidentielle avait été contestée en 2019 par l'opposition. Il y avait eu aussi des réclamations lors des législatives en 2023. Face à cela, la commission électorale a multiplié les engagements de transparence cette semaine. La promesse d'afficher les procès-verbaux devant chaque centre de vote à l'issue du dépouillement ce soir. Promesse aussi de remettre une copie de ces procès-verbaux à chacun des représentants des candidats présents. Et puis la transmission informatisée de tous les résultats dès cette nuit est censée être une garantie de transparence. Les deux principaux concurrents du président sortant, le militant des droits humains Biram Dahabeh, le deuxième lors des deux dernières présidentielles, et le président du parti islamiste Tawassou, Hamadi Oussoubi El Mokhtar, première force d'opposition à l'Assemblée nationale, eh bien, ces deux candidats ont prévenu qu'ils resteraient attentifs à tout manquement. Vigilance, donc, ici à Nouakchott.
Léa Lisa Vesteroff, l'envoyée spéciale de Radio France Internationale, en direct, vous l'aurez bien entendu, de Nouakchott, avec quelques petits problèmes techniques, mais rien ne vaut le bon vieux téléphone. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Kanyabayonga, dans le nord Kivu, est passée hier aux mains des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Une chute qui intervient dans un contexte particulier, quelques jours après la visite de la première ministre, Judith Suminwa, et à la veille du message à la nation de Félix Tshisekedi à l'occasion de la fête de l'indépendance. La cité a résisté pendant au moins un mois, mais les FARDC, leurs alliés et même les casques bleus de l'ONU qui effectuaient des patrouilles n'ont pas réussi à maintenir la ceinture de sécurité autour de cette grande ville, plusieurs dizaines de milliers d'habitants, et les déplacer, une grande ville qui plus est située à un endroit stratégique. Confirmation avec notre correspondant à Kinshasa, Passion Ligodi.
La prise de Kanyabayonga revêt une importance stratégique majeure pour le M23 et ses alliés. Elle facilite la mobilité de leurs combattants, leur permettant d'atteindre par voie terrestre d'autres grandes agglomérations de la région. La prochaine cible potentielle est Kaina, une cité d'environ 30 000 habitants, suivie des Lubero centre, avant d'arriver à Butembo. Il ne faut que 5 heures de route en moto pour relier Kanyabayonga à Butembo, une ville d'environ 1 million d'habitants. Au-delà des aspects stratégiques, l'autre enjeu dans la région est humanitaire. La situation s'est davantage détériorée ces derniers mois, avec l'arrivée des milliers de déplacés en provenance des zones telles que Rutshuru, Masisi et Walikale. Certains de ces déplacés vivent dans des familles d'accueil, tandis que d'autres sont installés dans des écoles et des bâtiments public. Depuis quelques semaines, la situation est devenue intenable, même pour les organisations humanitaires. Par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge a suspendu depuis fin mai la distribution d'aide alimentaire destinée aux déplacés situés sur l'axe Kanyabayonga, Burangiza et Bulundi, dans la chefferie de Buto. Selon l'ONU, cette tension a entraîné le déplacement de 350 000 personnes rien que durant la semaine du 10 au 16 juin. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Des nouvelles à présent des 10 dirigeants politiques de l'opposition malienne, membres de la déclaration du 31 mars, qui rassemble la quasi-totalité des partis politiques maliens mobilisés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Arrêtés le 20 juin dernier lors d'une réunion politique, ils ont été 4 jours après inculpés et placés sous mandat de dépôt, notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Aujourd'hui, ils ne sont plus à la maison d'arrêt de Bamako. David Bachet, selon vos informations, ils ont été transférés ces derniers jours dans des prisons à l'intérieur du pays.
Ils sont 3 dans la prison de Kenyiroba, à une 60aine de kilomètres au sud de Bamako. 3 autres à Koulikoro, une 60aine de kilomètres au nord. Les 4 derniers ont été transférés à Dioïla, 160 kilomètres à l'est de la capitale. Anciens ministres, hauts dirigeants de partis politiques maliens, ils resteront détenus et séparés donc jusqu'à la fin de la procédure qui les vise. C'est pour les empêcher de communiquer et ça complique les visites, explique l'un de leurs avocats. Mais sur le plan légal, c'est normal. Vu le surpeuplement des prisons, c'est quand même mieux comme ça. En avril, les autorités maliennes de transition ont suspendu les activités politiques dans tout le pays, invoquant l'ordre public. La défense juge cette interdiction contraire à la Constitution et conteste la légalité des conditions d'arrestation des 10 opposants. Actuellement, les personnalités politiques opposées aux autorités de transition pèsent chacune de leurs paroles ou se murent dans le silence par peur de la répression. Ceux qui prônent le plus ouvertement la désobéissance civile se sont résolus à l'exil ou à la clandestinité. L'ancien ministre Ousseini Amiongindo est quant à lui caché au Mali. Il ne faut pas compter sur l'oppresseur pour satisfaire les demandes de l'oppressé, déclare-t-il dans un message diffusé sur les réseaux sociaux avant d'appeler à résister.
Les précisions de David Baché. En Guinée, beaucoup de réactions après les accusations d'agression sexuelle sur des jeunes mineurs dans un centre de formation de la Fédération guinéenne de football. Vous avez pu l'entendre en début de semaine sur l'antenne de RFI. Une jeune joueuse a décrit un véritable système pédocriminel qui opère au sein du centre de Nongo à Conakry. Un témoignage inédit qui fait bondir les associations féministes du pays, dont le club des jeunes filles leaders de Guinée. L'organisation qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux jeunes femmes, demande au procureur de la République de se saisir de ce dossier dont l'enquête policière patine depuis un an et elle annonce qu'elle va porter plainte contre X ou se constituer partie civile si une victime présumée souhaite porter plainte. Écoutez la directrice exécutive Oumou Kiri Diallo.
Aujourd'hui, le cas de la Fédifoot est un exemple parmi tant d'autres. Et que ce soit l'opinion nationale et internationale, nous avons tous suivi des cas de violences sexuelles qui sont passés sous le silence, sur lesquels il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. En dépit de tous les textes de loi qui existent, en dépit de toutes les structures aujourd'hui qui existent, qui doivent enquêter et être aux côtés de la population pour que justice soit rendue, malheureusement, si encore une fois la société civile, les organisations de promotion des droits des femmes ne se mêle pas, ne pointe pas les dossiers du cas. Malheureusement, ça n'avance pas du côté de la justice. Et nous déplorons en tout cas un certain manque de volonté à ce niveau. Et la situation, elle est alarmante parce qu'aujourd'hui, nous peinons à avoir les résultats escomptés vis-à-vis de toutes les actions que nous menons sur le terrain. C'est parce qu'à un moment donné, toutes les parties prenantes de la chaîne de protection et de défense ne s'impliquent pas à la hauteur de leurs responsabilités pour parvenir à lutter contre ces violences-là.
Des propos recueillis par Sidi Ansané. Au Togo, dépistage systématique du Covid-19 pour tous les pèlerins rentrant de la Mecque. Les autorités de Lomé demandent également aux personnes concernées de limiter les contacts pendant les 10 jours suivant leur retour, car la chaleur ne serait pas la seule responsable des 1300 morts lors du Hajj. En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires ont détecté 25 cas de Covid-19 à l'aéroport d'Abidjan. Sur les 619 voyageurs de retour de la Mecque, aucun décès cependant n'a été enregistré, mais le ministère de la Santé recommande le dépistage en cas de symptômes, le respect des mesures barrières pour les personnes affectées. Et puis en début de semaine, déjà, le Sénégal avait lui réimposé le masque à l'arrivée des pèlerins à Dakar et mis en place des tests de dépistage volontaires. Nous sommes maintenant à moins d'un mois des Jeux Olympiques de Paris. Les participants peaufinent leur préparation, comme en République démocratique du Congo, où deux des trois boxeurs concernés par ces JO viennent de Lubumbashi et plus précisément du mythique club Mazembe. Porter haut le maillot des Léopards et de Mazembe sera leur mission à Paris. Brigitte Mabi, 22 ans, a obtenu son ticket après 4 succès consécutifs, dont le dernier en Thaïlande. Peter Kabeji, pour sa part, a reçu l'invitation en sa qualité de champion d'Afrique en titre des mi-lourds. Pascal Mangala, pour le clan Mazembe, la fierté évidemment est immense.
Toujours au chevet de ses athlètes, Franck Kilolo, président de Mazembe section boxe, est l'homme le plus heureux.
C'est une grande fierté pour notre club, TP Mazembe. Et c'est une première fois dans l'histoire de la boxe, parce que c'est une discipline qui a fait la fierté de toutes les disciplines confondues.
Coéquipière en club de Peter Kabeji et Brigitte Mbabi, Marie-Joëlle Mouika ne doute pas que ses deux collègues soient en mesure de briller aux Jeux Olympiques de Paris.
Avec leur courage, leur détermination, leur travail, donc ça promet.
Le défi est d'offrir à la RDC une première médaille olympique, une chose réalisable avec une meilleure préparation, estime Brigitte Mbabi, 22 ans, et qualifiée dans la catégorie des haltères des 66 kilos.
On connaît Mazembe Sema au foot, et voilà, nous qui faisons la boxe, si vraiment les autorités nous soutiennent, ainsi que les soutiens de notre président Maurice Katumbi Tshakwe, on va prendre au moins une médaille.
Même rêve pour Peter Kabeji, invité lui pour son statut de champion d'Afrique en titre chez les mi-lourds. La devise du clan des corbeaux, impossible n'est pas Mazembe, sera une motivation supplémentaire. Les supporters, pour leur part, resteront de cœur avec leurs ambassadeurs, malgré la distance, ont-ils rassuré. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Et en attendant, c'est l'un des grands rendez-vous de l'été musical africain. À Essaouira, au Maroc, le festival Gnawa, musique du monde, bat son plein. Déjà la 25e édition de cet événement réputé qui célèbre, défend et fait vivre cette tradition ancestrale grâce à 3 jours de concerts, tous gratuits. Notre envoyé spécial Guillaume Thibault a croisé la route d'un jeune musicien natif d'Essaouira. Abdelmalek El Kadiri fait partie de la nouvelle génération des Malem, ces maîtres qui portent la culture Gnawa. Portrait sonore, forcément sonore.
Salamou, salamou, D'une douceur et d'une sagesse absolue, Abdelmalek El-Kadiri a gardé son regard et son sourire d'enfant. Natif d'Essaouira, c'est en suivant les musiciens dans son quartier qu'il a découvert, puis appris, la musique nawa.
On commence par les castagnettes, les couillous, la danse, etc. Et par la suite, on a accès au guembri. Par la suite, le malem, il donne son feu vert pour pouvoir exercer et pour pouvoir jouer à plein temps.
Virtuose du guembri dès l'adolescence, chanteur sidérant de facilité, à 37 ans, Abdelmalek El-Kadiri a déjà 23 ans de carrière. Et la volonté de jouer son rôle au présent, face à l'injustice, à la violence, en Afrique, au Proche-Orient, il n'a aujourd'hui qu'un seul message à transmettre.
Cela me ramène aux différentes chansons qui parlent des problèmes des esclaves et de leurs souffrances. Et ceci renvoie à un seul message, la paix doit régner. Et aujourd'hui, on veut voir cette paix partout dans le monde.
La paix, un thème et cette chanson reprise en chœur par le public du festival Gnawa. Guillaume Thibault et Sawira, RFI.
Le festival Gnawa Musique du Monde pour entrer dans la transe, c'est encore tout ce samedi, concert gratuit en partenariat avec RFI. Vous avez le temps d'en profiter à Essaouira, il est 13h46.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Samedi 29 juin, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec, par ordre d'apparition dans vos oreilles, la rédaction de Jeune Afrique qui fait sa une cette semaine sur le cas Bazoum, le président nigérien renversé. L'éditorial de Jean-Baptiste Placa qui a regardé le débat entre les deux candidats à la présidentielle américaine et qui s'inquiète pour l'état de la démocratie américaine et des signaux qu'elle envoie vers l'Afrique. Et puis jusqu'où va la science? Très loin quand elle suit les papillons, nous dira Caroline Lachowski, des papillons capables d'effectuer des vols transatlantiques. À la une de Jeune Afrique cette semaine, Mohamed Bazoum, le président renversé au Niger il y a pratiquement un an, c'était le 26 juillet, et qui, Catherine Potet, refuse toujours de démissionner.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la situation au Sahel et particulièrement au Niger au sein de Jeune Afrique. On le disait, l'immunité de Mohamed Bazoum lui a été retirée. On peut donc s'attendre à des poursuites. Que lui reproche-t-on exactement ?
Oui, tout à fait. Alors le 14 juin, la Cour d'État, il faut le rappeler, c'est un organe qui a été créé sous la transition militaire, lui a retiré son immunité présidentielle au motif de crimes de trahison et de complot et attentats ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État. En substance, les autorités lui reprochent d'avoir pris langue avec des puissances étrangères et d'avoir tenté de s'évader en octobre dernier, une tentative d'évasion supposée que dément formellement l'entourage de Mohamed Bazoum.
Il est toujours retenu, donc hors de tout cadre légal.
Tout à fait. Le 26 juillet, ça fera un an qu'il est retenu avec son épouse au palais présidentiel. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de procédure légale qui justifiait cette séquestration. Avec la décision de la Cour d'État de lever son immunité, il pourrait être poursuivi par le tribunal militaire de Niamey. Il faut rappeler que pour l'instant, il n'est pas formellement inculpé. Ses avocats, qui n'ont pas accès à lui et qui ne peuvent pas lui rendre visite au palais présidentiel, dénoncent une parodie de justice et, je l'ai dit, n'ont toujours pas accès à leur client.
Et Mohamed Bazoum, lui, refuse toujours de démissionner. Il ne faiblit pas.
Tout à fait. Alors Mohamed Bazoum n'a plus de contact avec le monde extérieur, donc c'est assez difficile d'avoir des nouvelles. Il faut rappeler qu'après sa tentative d'évasion supposée, en tout cas la tentative d'évasion que lui reproche la junte du général Tiani, ses téléphones lui avaient été confisqués, donc ses proches ont parfois des nouvelles à travers son médecin qui peut lui rendre visite quelques fois par semaine. Et selon ses proches, effectivement, Mohamed Bazoum refuse toujours et inlassablement de démissionner. Contrairement, par exemple, à ses homologues maliens et burkinabés, on se rappelle d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, qui avait démissionné après avoir été renversé. Même chose pour Rochmar Christian Kabore au Burkina Faso, mais Mohamed Bazoum, lui, refuse catégoriquement. Ses proches le disent, il est prêt à aller jusqu'au bout.
Pourtant, ses comptes ont été gelés par la junte, ses comptes et ceux de ses proches, une manière de faire une nouvelle fois pression sur lui. Quelles sont les conséquences précises de cette décision, Manon Laplace ?
Effectivement, on a appris récemment que les comptes, l'ensemble des comptes au Niger de Mohamed Bazoum, mais aussi de sa famille et de dizaines d'anciens collaborateurs comme des ministres, son ancien directeur de cabinet, des membres du PNDS, sa formation politique qui le soutiennent. Beaucoup de comptes ont été gelés dans l'entourage de Mohamed Bazoum. Alors effectivement, c'est une pression supplémentaire qui est mise sur Mohamed Bazoum et son entourage. C'est évidemment un moyen de pression supplémentaire en plus du volet judiciaire qui pourrait s'ouvrir bientôt.
Manon Laplace, spécialiste de la situation au Sahel et particulièrement au Niger au sein de Jeune Afrique, répondait aux questions de Catherine Poté. La semaine de Jean-Baptiste Placa, marquée par le débat entre les deux candidats à la présidentielle américaine. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Nicolas Brousse.
On a vu un Joe Biden qui s'embrouille dans ses réponses, mais refuse obstinément d'accepter que ses forces l'abandonnent, au point d'offrir les clés de la Maison-Blanche à un Donald Trump, lui, incapable d'accepter une défaite électorale, et qui, à coup d'affirmations fantaisistes, prend de surprenantes libertés avec la vérité. Tel était le décor du premier débat de la présidentielle de novembre prochain aux États-Unis. Jean-Baptiste, quels signaux reçoit ainsi l'Afrique de la part de la démocratie américaine ?
Depuis que Donald Trump a lâché ses partisans à l'assaut du Capitole en janvier 2021, la démocratie américaine a cessé d'impressionner en Afrique. Trump a même failli rabaisser les États-Unis au rang de ces républiques bananières que lui-même méprise tant. Il n'empêche, bien des tares que l'on déplore régulièrement dans la vie politique en Afrique ne paraissent plus improbables en Amérique ou dans certaines grandes démocraties. Ainsi, lorsque Joe Biden, manifestement diminué, sent plus assez de lucidité pour admettre qu'il serait peut-être temps pour lui de passer la main, certains en Afrique se demandent ce qui le différencie de Robert Mugabe, même s'ils n'ont rien en commun dans la pratique du pouvoir. Quant à Donald Trump, qu'aurait l'aplomb avec lequel il assène les approximations à envier à certains despotes d'Afrique ou d'ailleurs ? Le pire ici est que Biden, inconsciemment, est en train de faciliter le retour de Trump à la Maison-Blanche. Ce serait l'ultime preuve que très peu de démocraties aujourd'hui sont à l'abri d'un recul brutal. Surtout dans un monde où nombre d'électeurs d'insatisfaction en déception dû aux politiciens n'hésitent plus à faire, quand bon leur semble, un usage capricieux de leur bulletin de vote.
Bon, mais aux États-Unis, au moins, certains leaders, amis de Joe Biden, disent tout haut qu'il serait bon qu'il s'éclipse.
Mais comme en Afrique, il est aussi des partisans ou courtisans qui n'osent pas dire la vérité à ce leader qui sombre dans un naufrage évident. Par tendresse ou par calcul, certains tentent de faire croire qu'il pourrait, demain, retrouver la vigueur qu'il faut pour rassurer les Américains. Et pourtant, à vue d'œil, celle-ci l'abandonne de jour en jour. C'est comme cela qu'en Afrique, des dirigeants fatigués, sinon finis, s'accrochent envers et contre tout. Certes, aux États-Unis, les institutions fonctionnent. Mais les questionnements qui découlent du débat de ce jeudi n'interpellent pas que le présent, c'est aussi, surtout, l'avenir qui est en cause. Et l'on imagine comment Joe Biden pourrait, durant les 4 prochaines années, retrouver la vigueur qui semble l'abandonner jour après jour. Après tout, aux États-Unis, le président de la République est d'abord le commandant en chef des armées. Convenir qu'il est durablement diminué n'est pas de la malveillance, mais juste ne pas parier sur l'incertitude par rapport aux charges de leader du monde libre. Et c'est ici que ce qui peut être considéré comme un problème typiquement américain devient une source de cauchemar pour la planète. Dans son déni de tout, Donald Trump a laissé croire que Biden était en train de précipiter l'humanité vers une troisième guerre mondiale. Et si c'était lui-même, au cas où il retournerait à la Maison-Blanche ? Joe Biden, en cédant la place à un candidat plus solide, rendrait un service à son peuple et à la terre entière dans un monde guetté par tant de dangers.
Jean-Baptiste, si je puis me permettre, Barack Obama a quand même fait valoir que les débats décevants font partie de la vie politique.
Un débat voulu et longuement préparé par Biden, ses propres médecins ne peuvent assurer que le naufrage du temps l'épargnera au fil de la campagne. ni même si l'un et l'autre arriveront à l'élection. Se convaincre qu'il y aura des jours meilleurs, c'est se mentir. Et c'est au nom de tous que parlent tous ceux qui demandent aux démocrates de se trouver un candidat plus convaincant. Et s'il avait le courage de l'accepter, Joe Biden pourrait entrer dans l'histoire comme il est entré pour toujours Lyndon Baines Johnson en renonçant à un second mandat qui aurait mis son parti en lambeaux. Les Américains, aujourd'hui encore, considèrent LBJ comme un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis. En politique, il faut parfois savoir perdre un peu pour gagner l'immortalité.
L'éditorial de Jean-Baptiste Placa à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. C'est l'heure de notre chronique science avec Caroline Lachowski. Bonjour.
Bonjour.
Jusqu'où peuvent voler les papillons? Visiblement très loin, puisqu'une équipe internationale d'entomologistes vient de démontrer que des papillons sont capables d'effectuer des vols transatlantiques, c'est-à-dire de plus de 4000 km sans se poser.
Il s'agit des belles dames, ou Vanesse des Chardons, Vanessa Cardui de leur nom scientifique, des papillons migrateurs très répandus de l'Afrique subsaharienne jusqu'au nord de l'Europe en passant par le Moyen-Orient, capables de survoler le Sahara et de parcourir de très longues distances, jusqu'à 15 000 km, lors de leurs migrations annuelles, mais avec escale et de nombreuses pauses pour se remettre. Car au-delà de la métaphore sur les battements d'ailes, l'effet papillon, les chercheurs se sont longtemps demander comment les papillons parvenaient à voler aussi bien et aussi loin avec des ailes aussi larges, très courtes et surtout très grandes par rapport à leur taille. Des chercheurs suédois ont d'ailleurs résolu cette énigme du vol des papillons en 2022 en démontrant l'effet soufflet de leurs larges ailes flexibles qui leur permettent de décoller très rapidement et de voler de façon erratique et imprévisible, ce qui leur permet aussi d'échapper aux prédateurs. Mais revenons à nos belles dames qui volaient sur tous les continents à l'exception de l'Amérique latine, l'océan Atlantique restant leur dernière frontière infranchissable. D'où la surprise de l'entomologiste espagnol Gérard Talavera quand il a découvert sur une plage de Guyane un essaim de belles dames échouées sur le sable. Les ailes trouées, abîmées mais bien vivantes, cet entomologiste formidable chercheur de papillons en a déduit qu'elles venaient de traverser l'océan Atlantique. Hypothèse inédite qui restait à prouver. Notre entomologiste a donc dû mener l'enquête.
Mais Caroline, comment l'a-t-il mené? Comment suivre et retracer le vol des papillons?
Impossible effectivement de leur mettre une balise sur les ailes. Ce spécialiste des belles dames qu'il repère et photographie sur tous les continents a du coup mis au point en 2018 des outils génétiques pour analyser l'ADN du pollen piégé dans les ailes de ces insectes pollinisateurs. C'est ainsi qu'il réussit à suivre et donc maintenant à retracer la route migratoire de ces papillons. Grâce à cette technique innovante et à d'autres outils isotopiques, Gérard Talavera du Jardin botanique de Barcelone, en collaboration avec une équipe internationale d'entomologistes, a réussi à démontrer que ces belles dames échouées en Guyane avaient bien survolé l'Atlantique. Dans l'étude qui vient de paraître dans la revue scientifique Nature Communication, ils ont démontré non seulement que le pollen collé à leurs ailes était celui de fleurs spécifiques d'Afrique de l'Ouest, des fleurs qui éclosent entre août et novembre, ce qui correspond à la date d'arrivée de ces papillons, mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont aussi étudié le génome de ces belles dames échouées en Guyane et montrer que leurs gènes provenaient à la fois de lignées de papillons d'Afrique et d'Europe, mais pas d'Amérique du Nord. Ce qui prouve là encore qu'elles ont bien réussi un vol transatlantique, 4200 km sans escale. Cette enquête génétique et entomologique, botanique, a aussi été météorologique, avec des conditions météo et surtout des vents favorables. Les scientifiques ont mis en évidence des vents très puissants qui auraient fait dévier ces papillons de leur route migratoire habituelle en Afrique pour les entraîner jusqu'au-dessus de l'océan Atlantique, qu'elles auraient ensuite survolé jusqu'à la côte nord de l'Amérique du Sud pour s'échouer sur cette plage de Guyane. C'est la première fois qu'une telle migration transatlantique de papillons est démontrée, ce qui ouvre la voie à une meilleure compréhension des migrations des insectes pollinisateurs en général et de ces belles dames en particulier qui jouent un grand rôle dans la dissémination des plantes à fleurs, mais aussi des champignons, voire des microbes ou de bactéries transportées d'un océan à l'autre sur des milliers de kilomètres et sur tous les continents par les battements d'ailes des papillons. C'est un autre genre d'effet papillon à explorer.
Chronique signée Caroline Lachowski. Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme de Tour de la Question.
Lundi, notre dernière revue de presse scientifique de la saison, avec des magazines à gagner. Et puis mardi, nous tenterons de nous mettre dans le cerveau d'un champion pour découvrir comment rester concentré sans stresser pour donner le meilleur de soi-même.
Voilà qui est prometteur. Fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Mickaël Goncalves, rédaction en chef Karine Franck avec Pierre Vallée. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'informations en full day. Et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Sofiane Simerabet, fils d'Algérien, né en France et vivant à Dubaï, pour L'Arabe Confus. Créateur du compte Instagram The Confused Arab, ce tourmenté crée des œuvres qui s'interrogent. Qu'est-ce qu'être arabe ? Et signe un petit traité d'expatrié heureux.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à partir de 14h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.